Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du CRIDAC. Je m'appelle Loïc Bizeul et je serai votre animateur tout au long de cet épisode. Il sera consacré aux enjeux entourant les nouveaux critères d'immigration mis en place récemment par le gouvernement québécois. Bonne écoute! Le Québec a récemment dévoilé des nouvelles orientations en matière d'immigration, faisant de la maîtrise du français un critère désormais incontournable pour les nouveaux et nouvelles arrivantes. Le message est clair, la langue française devient une condition sine qua non pour s'installer de façon permanente au Québec. Ce resserrement des règles aura assurément des impacts importants sur les futurs immigrants et immigrantes, mais aussi sur ceux et celles vivant déjà au Québec. Il marque aussi la consolidation de l'approche prônée par le gouvernement caquiste en matière d'immigration permanente. D'abord, assurer la protection du français avant la croissance démographique ou économique liée à l'immigration. À l'avenir, si le Québec devait accueillir plus d'immigrants et d'immigrantes, ce sera uniquement en raison de la croissance du nombre d'immigrants et d'immigrantes économiques francophones. C'est donc de cette nouvelle approche, qui inclut notamment une réforme du programme de sélection des travailleurs qualifiés, une refonte du programme de l'expérience québécoise, le PEC, des changements en conditions du programme de regroupement familial, à celui également des travailleurs autonomes, que nous nous intéresserons tout au long de cet épisode. Pour répondre à mes questions aujourd'hui, j'accueille deux invités. D'une part, Catherine Hardet, professeure adjointe au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, membre du CRIDAC et spécialiste des politiques d'immigration. Et d'autre part, Dai Diallo, économiste principal à l'Institut du Québec et chargé de cours à HEC Montréal. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Donc, merci de répondre à mes questions aujourd'hui. Peut-être première question pour vous deux, histoire de cadrer un petit peu cette discussion qu'on va avoir ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez revenir sur les récentes orientations que le gouvernement québécois a prises en matière d'immigration, et notamment en lien avec le rôle que la langue française va jouer là dans les changements qui ont été apportés dans les orientations du gouvernement?
Oui, évidemment, il y a eu beaucoup de changements, en fait, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de l'immigration au Québec, puis surtout tout ce qui est politique publique, puis réforme réglementaire, il y a eu beaucoup d'éléments. Et il y a des grosses réformes qui ont été proposées, puis je dirais que le point commun de ces réformes, et qui sont en discussion, ou qui ont été adoptées dans les dernières semaines, c'est la langue française. Il faut vraiment voir qu'il y a une insistance du gouvernement actuel au Québec pour que les immigrants, au sens d'immigrants permanents, là, ceux qui accèdent à la résidence permanente, connaissent le français. Puis ça se décline dans plusieurs programmes dont on pourra discuter, mais qui sont des programmes vraiment, par exemple, de sélection au niveau de l'immigration économique. Donc, on veut que les immigrants économiques, qui représentent en fait plus de 70%, sont dans les cibles du gouvernement des immigrants qui seront choisis, qui auront la résidence permanente, on veut qu'ils parlent français. Puis pour qu'ils parlent français, il y a des exigences qui sont mises. Puis je voudrais juste dire quelque chose là-dessus, c'est que ça fait longtemps là, que le français, c'est important pour l'immigration au Québec. Faut pas croire que c'est nouveau, qu'il y ait des critères de sélection par rapport au français, mais c'est le poids de ces critères qui a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait voir que c'était comme un facteur parmi d'autres, quelque chose qui était important, qui était pris en compte, qui, au fil des gouvernements, des différents partis politiques, c'est juste le poids accordé à la langue. Aujourd'hui, on peut dire que la langue, c'est une exigence. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut avoir. On peut pas devenir immigrant permanent dans certains programmes sans prouver qu'on connaît le français. Alors évidemment, entendons-nous, il y a quelques exceptions, puis ça dépend du niveau de langue demandé, mais le Québec veut des immigrants francophones aujourd'hui.
Comme vient de le dire Catherine, on peut le dire en français et en latin, la langue devient la condition sine qua non pour s'installer de façon permanente au Québec. Les seules exceptions vont être le programme de réunification familiale, où là aussi il va falloir quand même d'une certaine manière démontrer sa volonté de vouloir apprendre le français si on ne le parle pas déjà, et aussi les programmes de réfugiés où la langue ne s'appliquera pas à ce niveau-là. Au-delà des enjeux de langue, Les prochaines orientations aussi du gouvernement du Québec en matière d'immigration permanente font en sorte que les seuils ne vont pas être bougés pour les deux prochaines années. On parle d'environ 50 000 immigrants au Québec qui s'installent de façon permanente d'année en année. Ces seuils-là ne seront pas élevés. Par contre, il y a des changements qui ont été mis en place pour permettre aux étudiants qui sont déjà présents sur le territoire du Québec, qui ont diplômé dans des programmes francophones, d'avoir accès à une admission de manière continue. Donc, l'admission qui ne sera pas mise dans les cibles de 50 000 dont on parlait. Ça, ça a été l'un des grands changements qui a été apporté aux politiques d'immigration avec les récentes adoptions qui ont été mises en place. Mais à cela aussi, on peut rajouter tout ce qui est sélection québécoise. En plus de l'immigration francophone qui sera mise de l'avant, le Québec parle de sélectionner un nombre de plus en plus important lui-même d'immigrants qui s'installent sur le territoire. Donc, on parle là aussi d'environ 70% des personnes qui, dans les années à venir, devraient être sélectionnées par le Québec. On parle des programmes économiques et aussi des réfugiés. Et l'importance de l'immigration économique, ça revient dans tous les discours, c'est revenu dans tous les discours. C'est aussi quelque chose que le Québec tient beaucoup. Et comme le disait Catherine tout à l'heure, ça va être à peu près plus de 70% des immigrants qui vont s'installer au Québec, qui seront issus de ces programmes économiques-là.
Avec les réponses que vous avez faites tous les deux, on comprend quand même que le rôle du français finalement n'est pas si nouveau, si je comprends bien. Ce serait peut-être intéressant pour nos auditeurs, auditrices de comprendre un petit peu l'évolution quand même qu'il y a eu par rapport au programme déjà en place. On sait, si on revient un peu depuis 1991 et l'accord Canada-Québec qui était relatif à l'immigration, est-ce que vous pourriez faire comme un espèce de tour d'horizon, de bilan des différentes mesures, des différentes pratiques qui existaient depuis cet accord, là, depuis une trentaine d'années, pour voir un petit peu quelle est la situation aujourd'hui, puis comment est-ce qu'elle a évolué?
Oui, c'est une longue histoire en fait. On doit remonter plusieurs dizaines d'années maintenant. On parle de l'accord de 91, qui est encore l'accord donc, qui est en place. Donc, il faut inscrire ça un peu dans le temps long. Il faut comprendre que le Québec veut des pouvoirs en immigration. Puis ça fait longtemps, à compter des années 70, en fait, le Québec a voulu gérer son immigration. Pourquoi ? Pour des raisons de poids démographique, mais aussi pour des raisons linguistiques. À l'époque, l'enjeu, évidemment, c'était que les immigrants parlaient surtout anglais. Puis il y avait une crainte que finalement, en ne gérant pas son immigration, le Québec serait un peu à la merci du fédéral, à la merci de choix politiques qui seraient faits à Ottawa et qui pourraient clairement mettre en danger la langue française, parce que ces immigrants étaient vus et plus enclins, en fait, dans les chiffres, c'était tout à fait ça, à rejoindre le côté anglophone, donc à parler anglais plutôt que français. Donc, ça fait longtemps que le Québec, pour des raisons démographiques, mais aussi en termes d'intégration et aussi en termes, justement, de survie de la langue française, a parié sur l'immigration, c'est-à-dire que c'est dit, si on a le pouvoir en immigration, on va être capable d'avoir des exigences linguistiques, de choisir nous-mêmes nos immigrants, puis par l'intégration, par la francisation, par la sélection, on va pouvoir justement faire en sorte que l'immigration contribue au destin du Québec et assure sa survie en tant que le fait français en Amérique du Nord et puis au sein du Canada aussi. Donc l'accord Canada-Québec de 91, il donne beaucoup de pouvoir au Québec, il faut s'en rendre compte, on le sait peut-être, mais moi je dis toujours, en fait, de toutes les entités fédérées dans le monde, c'est le Québec qui a le plus de pouvoir en immigration. Il est capable de sélectionner ses immigrants, il choisit entièrement tous les immigrants économiques dont on a parlé, on sait déjà qu'ils sont importants. Il y a certains pouvoirs aussi au niveau de la réinstallation des réfugiés et il y a l'ensemble des pouvoirs en intégration et en installation des nouveaux arrivants. Puis ça, c'est des gros pouvoirs. Il y a beaucoup de programmes qui existent aujourd'hui au Québec. C'est beaucoup d'argent aussi parce qu'il y a des transferts fédéraux qui viennent justement d'Ottawa pour financer tout ça. Donc le Québec a toujours voulu un peu lier immigration et langue française. Évidemment, ce qui change, c'est les programmes. Ce qui change, c'est peut-être le cadrage médiatique ou politique qu'on peut avoir sur le lien justement entre immigration et langue française. Mais le Québec a les pouvoirs de faire ça. Peut-être qu'il voudrait encore plus de pouvoir. On sait que certains partis politiques demandent plus de pouvoir pour justement pouvoir jouer sur d'autres flux migratoires. On pense au regroupement familial. On pense peut-être aussi à l'immigration temporaire qui, elle, n'est pas finalement tellement gérée par ça. Mais en termes d'immigration permanente, c'est sûr que c'est énorme le lien qui a été tissé au fil des années, au fil des accords entre français et immigration.
Dans le cadre des accords Canada-Québec, l'un des principaux changements que l'on voit au jour d'aujourd'hui en 2024, c'est le fait que dans les programmes de sélection des immigrants économiques, dans le passé, le Québec avait une grille de sélection pour sélectionner ces immigrants économiques qui devaient s'installer sur son territoire, une grille de sélection qui était basée sur des compétences linguistiques, une grille de sélection qui était basée sur des compétences académiques et sur d'autres aspects des candidats à l'immigration permanente au Québec. Avec les changements qui ont été proposés en novembre, cette grille de sélection va disparaître d'une certaine manière et on aura en fait des immigrants économiques en fonction de différentes catégories. Donc dans ces catégories-là, on a par exemple ceux qui seront hautement qualifiés, on aura ceux qui auront des compétences manuelles. Ça, c'est un changement. C'est un changement qui n'existait pas avant parce que tout le monde était regroupé dans cette grille de sélection-là. Ensuite, c'est que le français devient une condition sine qua non à l'immigration. Avant, la grille de sélection donnait un certain nombre de points aux immigrants économiques qui voulaient s'installer au Québec, leur donnait beaucoup de points, mais il n'y avait pas un seuil éliminatoire. Alors que maintenant, il va y avoir un seuil éliminatoire qui va être mis en place. Puis les accords Canada-Québec aussi permettaient vraiment au Québec de choisir l'ensemble de ces immigrants économiques, mais le Québec a toujours eu un certain nombre d'immigrants économiques par rapport aux réfugiés et par rapport au regroupement familial. Le discours actuel et les chiffres qui sont sortis de la planification 2024-2025 nous montre qu'il y a vraiment une emphase qui sera mise sur cette sélection économique-là. Le Québec va avoir plus de sélection d'immigrants économiques au détriment, pas vraiment au détriment, mais ceci faisant, avec des seuils de 50 000, on aura une proportion moins importante de réfugiés et puis de gens de regroupement familial qui seront acceptés au Québec. Donc ça, c'est un constat que l'on peut faire. Et comme on le disait tout à l'heure, dans le cadre des accords Canada-Québec, l'immigration permanente a toujours été la principale forme d'immigration par laquelle les gens sont passés pour arriver au Québec. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'immigration temporaire. Il y a de plus en plus d'immigrants temporaires qui sont installés sur le territoire. Et le Québec a annoncé qu'il allait essayer de faire en sorte que les immigrants temporaires qui viennent s'installer sur le territoire soient plus en adéquation avec ces attentes linguistiques, par exemple. Ils ont annoncé que dans le cadre des pouvoirs du Québec, celui, par exemple, de renouveler les permis de travail des gens qui sont présents sur le territoire à partir de maintenant, il faudra démontrer une certaine connaissance du français pour pouvoir renouveler son permis de travail, le PTET. Donc là, on parle par exemple des programmes du permis de travail étranger temporaire où il y a un CAQ qui est nécessaire à l'émission d'un permis d'études. Et donc le CAQ qui est le certificat d'acceptation du Québec, le Québec pourra avoir un droit de regard là-dessus si les personnes immigrants temporaires n'ont pas un niveau suffisant de français. C'est ce genre de petits changements que l'on peut voir. En fait, c'est plutôt des adaptations aux accords Canada-Québec qui sont faits à l'intérieur des accords Canada-Québec plutôt que de changer ces accords-là.
Il existe une consultation générale pluriannuelle sur les besoins en termes d'immigration. Puis comment est-ce que se font ces consultations, comment se fait ce processus-là de consultation sur des orientations pour l'immigration permanente au Québec? Puis dans le fond, comment est-ce que se fait ce processus? Et aussi, est-ce que ces consultations-là, à quel point est-ce que ensuite, dans l'élaboration des politiques, comment est-ce que ces recommandations, on va dire, sont prises en compte? Parce qu'on l'a compris, l'immigration est vraiment au cœur là, des enjeux sociopolitiques québécois. Comment se passe, dans le fond, ce processus?
Dans le cadre de l'établissement des seuils d'immigration, des plans en immigration au Québec, le Québec est un endroit assez unique dans le monde. Le Canada est un endroit assez unique dans le monde où toute planification en immigration se fait avec le concours des différentes parties prenantes de la société, des différents organismes. Donc c'est un cas d'école, c'est un cas qui est assez unique, ça il faut le dire. Il y a quand même des efforts qui sont faits pour consulter la population, pour savoir comment est-ce qu'elle voit l'immigration et comment est-ce qu'elle entrevoit l'immigration dans le temps. Ceci étant dit, c'est que dans le processus en tant que tel, au Québec, le gouvernement du Québec en général produit des documents de consultation en lien avec sa vision de l'immigration et soumet ces documents de consultation-là à l'analyse de la population et des différents groupes intéressés par les enjeux d'immigration. Donc là, on vient juste de passer à travers ce processus-là cette année. Au cours de l'été 2023, le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI, avait effectivement produit ces documents de consultation dans le cadre de rencontres avec les différents groupes durant l'été. Et en novembre, le le MIFI nous est revenu avec des cibles finales, une planification finale de l'immigration. Et donc, chaque groupe, chaque citoyen peut déposer un mémoire, peut déposer ses idées au niveau de l'Assemblée nationale du Québec pour que le MIFI puisse consulter ces idées-là et ce que proposent les différents groupes. Et certains groupes aussi passent de manière physique à l'Assemblée nationale dans le cadre de consultations ouvertes où ils rencontrent les fonctionnaires du MIFI, ils rencontrent actuellement la ministre de l'Immigration du Québec et les différents partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Donc c'est comme ça que se passe ce processus-là, qui est un processus qui est démocratique, qui est ouvert et qui permet à tout un chacun qui s'intéresse à ces enjeux-là de pouvoir apporter son point de vue. Mais effectivement, la deuxième partie de la question, comme tu le disais Loïc, c'est est-ce que ceci est pris en considération? En fait, rien n'oblige le ministère de l'Immigration de prendre en considération les différents mémoires qui lui sont proposés, même si, en général, ils essayent quand même d'aller chercher un maximum d'idées, mais il n'y a pas d'obligation de faire ce que les différents groupes qui sont passés en consultation disent. Ça, c'est une première des choses qu'il faut savoir. Mais aussi, dans le cadre spécifique du Québec, durant les derniers mois, on a souvent rappelé aux autorités du ministère de l'Immigration du Québec que notre processus de planification a aussi des angles morts. On parle beaucoup d'immigration permanente, mais au Québec, on a de plus en plus d'immigration temporaire. Comment est-ce que l'on fait pour mieux comprendre, pour mieux planifier la venue des immigrants temporaires au Québec, autant pour leur bien-être que pour aussi être en adéquation avec les objectifs socio-économiques du Québec? On parle beaucoup d'enjeux de logement en ce moment, on parle beaucoup du marché du travail. Comment est-ce que l'on fait pour s'assurer que, comme dans le cas de l'immigration permanente, cette immigration temporaire-là, elle est planifiée, puis elle se déroule dans des conditions optimales, autant pour les immigrants que pour le Québec. Donc, c'est ces petits angles morts-là qui peuvent aussi exister dans ce processus de planification.
L'originalité du Québec, c'est vraiment l'idée que c'est une consultation publique générale. C'est en fait même dans la loi, donc c'est une obligation aujourd'hui. C'est intéressant parce que, on parle de planification. Toutes les sociétés ne choisissent pas de planifier l'immigration ou alors ne sont pas en mesure de le faire. C'est sûr qu'au Canada, par exemple, société d'établissement puis société d'immigration qui s'est construite, qui s'est mise sur l'immigration, ça vient de tout aussi ce projet, cette construction dont l'immigration fait partie. Donc, faut voir ça aussi. La planification, ça existe aussi, par exemple, en Australie, dans des pays qui ont justement cette idée que l'immigration participe au développement économique, démographique, social des sociétés. La question, évidemment, c'est comment on fait ça? Puis on pourrait faire ça juste avec des économistes, hein, comme Dai. On pourrait faire ça avec des démographes. On pourrait même faire ça, parfois, c'est des considérations budgétaires. Ici, au Québec, ce qui est intéressant, puis qui étonne souvent, comme on l'a dit, c'est cette idée qu'il y a une consultation publique générale, puis qu'on invite les gens. C'était vraiment assez impressionnant de voir cette année, finalement, l'ensemble des mémoires qui ont été déposées. Il y avait des universités, il y avait des chambres de commerce, des représentants des employeurs, des patrons, des syndicats, à la fois des organismes qui travaillent avec les migrants, des avocats, des organismes qui travaillent plutôt sur les statistiques, sur l'économie. Donc, c'est cette idée que le gouvernement propose des éléments puis qui demande un retour de la société civile. Bon, ça, évidemment, c'est sur papier, puis Dai a très bien expliqué comment ça marche. Après, il y a beaucoup de débats sur est-ce que ça fonctionne, quelle est l'influence. Moi, j'aime toujours rappeler que il y a à chaque fois comme un avantage et un désavantage ou un piège et quelque chose qui pourrait être bon. Parfois, on a un peu peur que quand on met comme ça l'immigration sur la place publique, littéralement, puisque c'est à l'Assemblée nationale, c'est retransmis, il y a de la politisation, puis que ça amène vraiment les gens à avoir des opinions fortes, puis à se chicaner, puis à être pas d'accord. Puis c'est parfois un peu le risque. Puis il faut dire, il y a des processus qui sont derrière des portes fermées, puis parfois c'est derrière des portes fermées parce qu'on veut garder ça justement sur le côté, puis baser ça sur d'autres considérations. Là, il y a l'idée qu'on veut un débat public. L'autre aspect, au-delà de ce risque peut-être, mais ce qui est assez incroyable finalement, c'est cette idée qu'on peut avoir une légitimité démocratique ou qu'il y a énormément de transparence. C'est sûr qu'il y a des risques, mais il y a aussi cette idée que c'est un pari que le Québec fait hein, jusqu'à présent, de dire oui, on peut parler d'immigration, oui, il y a un dialogue qui est possible là-dessus, oui, on invite les gens à se positionner là-dessus. Est-ce que ça influence vraiment la décision des politiques? On a organisé une table ronde avec l'ERICA, l'équipe de recherche sur l'immigration Québec et ailleurs, et on a demandé aux intervenants leur idée, là. Est-ce qu'ils ont l'impression que ça influence. Puis ils étaient partagés, mais l'idée c'était c'est mieux que rien. C'est-à-dire que c'est sûr qu'en étant littéralement à la table avec la ministre, en pouvant s'exprimer, en pouvant mettre des mémoires, quelque chose qui est dans le débat public, au moins on a l'impression qu'on parle. Est-ce que c'est 100% suivi? Peut-être pas, mais il y a une question que au moins on prend l'importance du dialogue, de la conversation. Mais c'est un processus qui est délicat. Puis chaque fois que ça se passe, là on a une consultation pour 2 ans, mais c'est tous les 3 ans normalement. Puis à chaque fois, ça se passe, ça brasse beaucoup de choses, évidemment. Mais c'est intéressant, comme on l'a dit dès le départ dans la réponse, finalement, c'est la spécificité du Québec aussi sur le processus. Puis ça, c'est quelque chose à retenir.
Et pour l'exemple, Catherine, si je peux rajouter à ça, tu le disais avec votre table ronde, aux dernières consultations l'été dernier, si je me rappelle bien, plus de 70 mémoires, de nombreux mémoires ont été déposés, plus de 70 groupes ont été rencontrés à l'Assemblée nationale, et la très 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 grande majorité des gens qui ont déposé des mémoires et qui sont passés à l'Assemblée nationale réclamaient une hausse des seuils d'immigration permanente, entre autres, et ces seuils-là n'ont pas été augmentés avec la décision qui a été annoncé en novembre. Oui, pour les étudiants francophones, ça a été déplafonné, mais ça n'a pas rencontré cette demande-là d'augmentation claire des seuils. Et c'est un exemple, comme tu le disais, on peut s'exprimer là-dessus, mais il n'y a pas une obligation à ce que toutes les idées soient suivies par le gouvernement.
Au printemps dernier, le gouvernement caquiste a apporté de nouveaux éléments, à détailler sa plan d'attaque, on va dire, sa nouvelle approche en matière d'immigration. Puis on sait que, on l'a déjà un petit peu effleuré, mais donc ça va impacter davantage là, les futurs immigrants et immigrantes avec ce niveau de compétence linguistique en français qui est désormais exigé. Dans le fond, comment est-ce que cette réforme, les réformes qui sont proposées, puis ce durcissement un petit peu, on peut dire, comment est-ce que ce durcissement va restreindre finalement l'accès d'abord à l'immigration permanente au Québec, puis on pourra revenir un peu plus tard dans l'émission sur l'immigration temporaire. Dans le fond, concrètement, quels sont les niveaux de compétences linguistiques qui sont demandés désormais, notamment là, pour le programme de l'expérience québécoise, donc le PEQ? Est-ce que vous pourriez nous détailler, puis vous, comment est-ce que vous percevez cette réforme et la façon dont elle vient impacter finalement les premiers et premières concernés, soit les futurs immigrants et immigrantes, soit ceux, même celles et ceux qui sont déjà installés au Québec.
Il y a un élément important, je pense, à comprendre aussi, avant de rentrer vraiment dans les spécificités, c'est qu'aujourd'hui, au Canada, mais aussi au Québec, puis je vais parler du Québec, il faut se rendre compte que l'immigration telle qu'on la voit et l'accès à la résidence permanente, c'est un modèle à 2 étapes. Alors 2 étapes, même certains parlent de multi-étapes, c'est-à-dire que de plus en plus, on n'est plus dans ce rêve québécois de l'immigrant qui reçoit sa résidence permanente, qui est sélectionné à l'étranger, qui arrive, qui met le pied à Montréal, puis qui a sa résidence permanente. C'est plus de l'immigration telle qu'elle. Ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est que les résidents permanents sont des résidents temporaires, que ce soit des étudiants étrangers, des travailleurs temporaires, que ce soit même des demandeurs d'asile, mais qui reçoivent ou qui obtiennent, disons, leur résidence permanente en étant déjà là. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui étudient, c'est des gens qui sont là. Puis ça explique pourquoi ces changements sont vus aussi. C'est qu'évidemment, si on est dans une immigration à 2 étapes, les changements qu'on fait sur les programmes de sélection impliquent aussi que ça va changer les possibilités d'accès à la résidence permanente à ceux qui sont déjà présents. Puis, par exemple, moi, je suis migrante temporaire, là, je suis travailleur étrangère temporaire. Puis, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une modification à ces programmes, qu'on change X, Y, qu'on demande plus, qu'on demande moins, qu'on demande d'autres étapes, ça évolue pour les migrants. Puis, les migrants, il y a beaucoup de changements. Puis, on va devoir effectivement voir ce qui est possible et pas possible. On l'a dit, le plus grand changement, c'est des exigences, vraiment, en termes de français. Alors, c'est un peu délicat de rentrer dans vraiment les détails, mais en général, on pourrait dire que si on voit les différents programme, la base commune, c'est souvent qu'on demande un niveau plus important à l'oral qu'à l'écrit. Ça, c'est une première ligne droite. Deuxièmement, en général, on demande un niveau intermédiaire. Parfois, intermédiaire avancé, c'est ce fameux niveau 7 dont on parle sur une échelle de 12 pour certains programmes, mais c'est quand même, il y a une petite variation qui peut exister en fonction du niveau de qualification. C'est-à-dire que pour certains programmes, on a parlé des catégories qui vont maintenant exister, qui sont plus ou moins qualifiantes ou qualifiées. Avec d'autres catégories, les catégories varient sur la demande en termes d'exigence linguistique. Troisième chose aussi, nouveauté ou changement, préférence qui est donnée, c'est qu'il y a des exigences pour ce qu'on appelle le requérant principal, la personne qui demande l'immigration, mais maintenant il y a aussi des exigences linguistiques pour le conjoint qui accompagne. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui existait déjà en fait un petit peu dans une branche du PEC, mais qui maintenant a été généralisé au programme de sélection des travailleurs et au PEC en général. C'est-à-dire que le conjoint qui accompagne la personne immigrante va aussi devoir prouver en fait qu'il connaît le français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut passer ces deux étapes, si on est déjà là au Québec, ben on va devoir apprendre le français. Ou si on le connaît, on va devoir se faire tester pour prouver qu'on a le français. Donc c'est sûr que ça change quand même. Faut, enfin, moi j'étudie les politiques publiques là, puis j'adore ça, regarder les changements, les programmes. Mais c'est vrai que derrière il y a des gens, puis ça impacte fortement leurs possibilités pour rester au Québec, leurs possibilités pour justement trouver une voie d'immigration et tout ça. Puis on reparlera. Je sais que c'est comme ce qui plane sur cette entrevue, mais tout ça alors que les seuils d'immigration permanente restent stables. Et que l'immigration temporaire augmente. Ça veut dire aussi que tous les migrants temporaires ne peuvent pas devenir résidents permanents. Donc, ça pose aussi des questions en termes de vase communicant ou non, ou d'étapes, ou de temporalité aussi entre la possibilité d'être ici, de participer à la société québécoise, même connaître le français, mais avoir ce fameux certificat de sélection du Québec, arriver à passer dans les étapes du système d'immigration.
Effectivement, les changements auxquels on a assisté en matière d'immigration, on peut voir ça aussi d'une manière où ça impacte les personnes qui demandent la résidence permanente, les personnes qui veulent s'installer sur le territoire de manière générale, de deux façons. Donc, ceux qui sont déjà là et ceux qui pourraient, par exemple, arriver par la suite. Quand on regarde ceux qui sont déjà présents sur le territoire, effectivement, aujourd'hui, au Canada et au Québec, on assiste à une immigration qui se fait en deux étapes, avec des gens qui sont des immigrants temporaires dans beaucoup de cas qui deviennent des immigrants permanents. Il y a des vases communicants entre cette immigration temporaire et cette immigration permanente. Les changements au Québec, par exemple, aujourd'hui, on est tous issus du milieu académique ici. Quand on regarde concrètement les étudiants étrangers, par exemple, avec les changements qu'on a vu, le programme d'expérience québécoise, qui est une forme de voie accélérée pour permettre aux étudiants diplômés du Québec de devenir des résidents permanents, a changé, il va changer. Donc, ceux qui seront qualifiés désormais sont des étudiants qui ont soit étudié dans des programmes postsecondaires francophones ou soit qui ont étudié en français pendant un certain nombre d'années avant d'arriver au Québec. Donc là, des étudiants anglophones, par exemple, qui ont étudié à McGill, mais qui ont fait l'effort d'apprendre le français avec les niveaux dont parlait tout à l'heure Catherine, effectivement intermédiaire avancé de 7, ne pourront plus avoir accès à cette voie rapide qu'on appelle le PEQ diplômé. Et même pour le Québec, d'une certaine manière, on perd une certaine forme d'attractivité. Donc, des gens qui sont venus au Québec, qui sont diplômés de très grandes institutions d'enseignement, qui ont très clairement les capacités nécessaires pour contribuer au développement économique du Québec, on n'en veut plus d'une certaine manière, même s'ils ont appris le français, ils ne peuvent plus avoir accès à cette voie rapide-là. On est dans un contexte de concurrence internationale pour ces talents-là et même de concurrence à l'intérieur du pays, du Canada. Vous savez, Ottawa, ce n'est pas très loin d'ici, c'est 2 heures d'automobile, Toronto à 1 heure d'avion, donc c'est des gens que l'on pourrait perdre d'une certaine manière. On peut voir complètement comment est-ce que ces changements-là affectent des gens qui sont déjà au Québec. Par contre, il y a aussi du positif quand on regarde les travailleurs temporaires des secteurs manuels, disons, et puis de compétences intermédiaires. Avant, avec la grille de sélection, ces personnes-là étaient directement en concurrence avec des travailleurs plus qualifiés qui, d'une certaine manière, pouvaient avoir un certain avantage avec cette grille-là parce que plus on a de diplômes, plus on a de points. Mais là, vu qu'il y a des catégories spécifiques pour ces travailleurs manuels-là, on ose espérer qu'ils auront plus de facilité à émigrer au Québec d'une certaine manière. Donc ça, c'est des aspects positifs, mais effectivement, le fait d'avoir ce niveau minimal de français là aura tendance à avantager plus les candidats francophones et aussi le fait d'avoir maintenant imposé à l'ensemble des catégories d'immigration économique la situation où le conjoint doit démontrer la connaissance du français sera aussi quelque chose qui risque d'impacter peut-être négativement les futurs demandeurs de la résidence permanente. Donc ça, c'est pour les gens qui sont déjà présents au Québec. Mais parfois, on le voit de plus en plus dans les médias, on oublie aussi que ça peut affecter d'une manière importante des gens qui arrivent de l'extérieur. je vous donne un exemple. Quand on parle de regroupement familial, dans les médias actuellement, on parle de délais qui ont explosé avant même que l'on mette en vigueur les changements dont on est en train de parler. Vous savez, vous êtes un immigrant du Québec, vous avez votre conjoint, votre conjointe à l'autre bout du monde. Vous ne voulez pas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour recevoir cette personne-là. Donc là, avec les seuils qui n'ont pas bougé, avec la planification que l'on voit, le fait qu'il y ait plus d'immigrants économiques qui occupent un plus grand espace, le fait qu'il y ait aussi un déplafonnement pour les étudiants étrangers, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un nombre plus important de demandes dans le regroupement familial. Mais les seuils de ce regroupement familial-là n'ont pas évolué. Quand on parlait de vases communicants tout à l'heure, c'est aussi un peu ça, c'est d'immigration, d'immigration permanente, mais même au niveau des programmes d'immigration permanente, c'est que quand on augmente les seuils d'immigration économique, en termes d'économistes, toute chose est égale par ailleurs, on peut s'attendre à ce que le regroupement familial augmente aussi, donc augmentons-le, sinon on risque de vivre des situations d'horreur, comme on le voit déjà un peu dans les médias, où des gens sont éloignés pendant de nombreuses années de leurs conjoints. Donc, il faut penser à tout ça. L'immigration doit, cette planification ne doit pas se faire en silo, on doit penser à tous ces vases communicants-là, et surtout se rappeler que ce sont des personnes qui sont derrière ces chiffres-là dont on parle. Et en plus, le Québec est aussi dans une situation où il doit garder son système d'immigration compétitif par rapport à d'autres provinces canadiennes et même à travers le monde. Donc, c'est des enjeux auxquels il faut penser. Et voilà comment ces différents changements pourraient impacter les personnes candidates à l'immigration.
Si je peux juste rajouter un mot sur le PEC, donc ce fameux programme d'expérience québécoise, c'est vraiment l'archétype de cette immigration à deux vitesses, en fait. Il faut vraiment voir, c'est l'idée qu'on veut des gens qui travaillent, qui étudient, puis qu'on va leur donner une passerelle pour rester, puis c'est très présent aujourd'hui. Puis c'est juste pour mettre un peu en perspective, le PEC, au début que la CAQ est arrivée au pouvoir, en fait, ils ont fait déjà une réforme du PEC qui l'avait presque fait disparaître. Alors, en gros, il y a deux volets au PEC, un volet travailleur et un volet diplômé, mais le volet diplômé, donc pour les étudiants justement internationaux, a été fortement réduit. Pourquoi ? Parce qu'on demandait une expérience d'études et de travail. Puis on a vu ces dernières années vraiment le nombre de personnes qui passent par le volet diplômé descendre de manière vraiment importante, alors qu'avant c'était un des volets privilégiés. Là, c'est comme on renaît un peu de ses cendres, le PEC. Finalement, on aime ça, on va dire, on va le reprendre, on enlève l'exigence de travail, il faut seulement être diplômé, mais attention, puis c'est ça, il faut bien comprendre, c'est pas seulement une exigence en français dans ce cas-là, c'est qu'il faut être diplômé d'un programme francophone. Donc ça veut dire beaucoup. Donc, ça veut dire que dans le volet diplômé, pas travailleur, les deux ont des exigences de français, mais dans le volet diplômé, il faut être diplômé en français, en fait. Puis ça veut dire beaucoup sur ce programme. Et ce qui veut dire beaucoup aussi, on l'a signalé, mais j'insiste là-dessus, c'est hors quota. Donc, alors qu'on est à 50 000 immigrants, ça c'est la planification pluriannuelle, il y a comme une sorte de soupape de sécurité ou un entre-deux, un compromis, on pourrait dire beaucoup de mots là-dessus, mais les gens qui passeront par le PEC diplômé ne sont pas comptés dans les 50 000. On évalue là, le gouvernement dit que ce sera plus ou moins plus de 6 000 personnes qui pourraient obtenir, des étudiants qui pourraient obtenir des diplômés, la résidence permanente à travers ce programme, mais le fait que ce soit hors quota, ça dit beaucoup sur la volonté politique, puis ces changements sur la langue, mais aussi sur le volet diplômé en français, ben ça va dans tout ce dont on parle aujourd'hui, ce nouveau régime migratoire linguistique qui se met en place au Québec.
Donc on comprend mieux là le contenu des exigences et l'impact que ces exigences-là en français auront ou ont déjà finalement sur les immigrants et immigrantes déjà installés au Québec ou les futurs immigrants et immigrantes. Donc dans le fond, les seuils, vu qu'on en parle depuis un petit moment là, tu l'as rappelé Catherine, finalement ces seuils ils sont autour de 50 000 personnes de façon annuelle. Malgré, vous le disiez aussi tantôt tous les deux, les demandes et puis les mémoires qui ont été déposées où on attendait à ce que ces seuils soient augmentés. Malgré ces demandes-là, et puis c'est là où on voit peut-être à la limite là les limites justement de ce processus de consultation. Malgré cette consultation, donc, le gouvernement caquiste a décidé de maintenir ce fameux chiffre de 50 000. Dans le fond, qu'est-ce que ça nous dit finalement la décision finalement de maintenir ces seuils? Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé de les maintenir? Qu'est-ce que, au final, ça dit aussi des limites on y revient, de ce processus de planification de l'immigration au Québec. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de revenir finalement aussi sur ce processus-là, si c'est juste de la consultation et qu'au final, il n'y a pas d'impact politique derrière réel?
Tout à l'heure, on parlait des accords Canada-Québec. Il faut se rappeler que les accords Canada-Québec donnent au Québec un nombre maximum et quasiment minimum d'immigrants normalement que le Québec pourrait accueillir sur son territoire dans le cadre de la globalité des immigrants que le Canada accueille. Et juste pour qu'on s'en rappelle, dans les accords Canada-Québec, il était stipulé que le Québec pouvait recevoir à peu près son poids dans la Fédération canadienne en termes d'immigration. Aujourd'hui, quand on prend les chiffres de l'immigration canadienne, bon an, mal an, qui vont augmenter à 500 000 personnes dans peu de temps, si on appliquait le pourcentage que le Québec aurait dû recevoir de ce nombre de personnes-là, qui équivaut à peu près à son poids dans la Fédération canadienne, qui est un peu plus que 20%, on parlerait d'à peu près un peu plus de 100 000 immigrants. Donc, normalement, les accords Canada-Québec, c'est un peu ça. Même si le Québec pourrait recevoir ces gens-là, et un petit pourcentage supplémentaire par rapport à ça. Aujourd'hui, on parle de 50 000 personnes. Donc, les seuils d'immigration du Québec sont à 50 000 personnes. Donc, le Québec recevrait environ 10 % de l'immigration canadienne. Donc là, on peut voir la situation où le Québec accueille un nombre d'immigrants permanents qui est en dessous de son poids dans la Fédération canadienne et qui est en dessous, effectivement, de ce qu'il aurait pu aller chercher avec les accords Canada-Québec. C'est un fait qu'il faut reconnaître. Mais, surtout ces derniers temps, ce qui est assez étonnant quand on parle de ces seuils-là, c'est l'une des raisons pour lesquelles on les a établis à 50 000 pour les années à venir. Et l'une des raisons pour lesquelles on les a établis à 50 000 dans les années à venir, selon les communications du ministère de l'Immigration, c'est qu'on s'est rendu compte tout d'un coup qu'on avait un nombre assez important, je le dirais de cette manière-là, d'immigrants temporaires qui sont déjà présents sur le territoire. Je vous rappelle qu'en fin d'année dernière, Statistique Canada y arrivait avec des données où on se rendait compte qu'il y avait plus de 520 000 à peu près immigrants temporaires sur le territoire. Et là, tout d'un coup, l'OMIFI nous annonce que si on en a autant, on va geler les seuils d'immigration permanente. Et là, il y a un enjeu quand même, parce que comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est une question de vase communicant et que l'on assiste en ce moment. Il est assez spécial de réduire les seuils d'immigration permanente parce qu'on a autant d'immigrants temporaires. Tout ce que l'on fait, c'est de recréer toutes les difficultés qu'on a vues ces dernières années en matière d'immigration, quand on parlait de goulot d'étranglement tout à l'heure. Donc, des délais qui explosent, autant pour les immigrants économiques que pour le regroupement familial. Donc là, il y a un enjeu où on n'aurait peut-être pas dû geler si bas les niveaux d'immigration permanente alors qu'on a autant d'immigrants temporaires. C'est pas comme ça que l'on aurait dû faire ça. Puis surtout, le fait aussi que nos autorités nous annoncent qu'elles sont étonnées qu'il y ait autant d'immigrants temporaires, ça, c'est quand même aussi un peu étonnant dans le sens où cette immigration temporaire, elle n'est pas apparue d'un coup sur le territoire. Cette immigration temporaire, c'est des étudiants étrangers que l'on veut au Québec depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, les institutions d'enseignement, les gouvernements, tout le monde est en adéquation qu'on est content d'avoir cette présence d'étudiants étrangers sur le territoire. C'est des travailleurs temporaires. Ces travailleurs temporaires-là, ce sont des employeurs qui sont allés les chercher et c'est aussi les gouvernements qui ont facilité leur arrivée sur le territoire parce qu'au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de programmes qui ont été assouplis, il y a eu des programmes supplémentaires qui ont été créés. Par exemple, je vous en donne un, le PMI Plus, qui fait en sorte qu'une personne qui est à l'extérieur du Canada, qui attend son certificat de sa résidence permanente, peut venir au Québec en tant qu'immigrant temporaire pour travailler en attendant de recevoir sa résidence permanente. On a mis en place de nombreux processus pour faciliter l'arrivée de ces personnes-là. Et malheureusement, le Canada est aussi sur une planète où il y a malheureusement beaucoup d'enjeux géopolitiques désastreux en ce moment qui font en sorte qu'on a eu beaucoup de demandeurs d'asile qui sont arrivés sur le territoire. Mais il n'y avait pas autant d'étonnement que ça. Donc tout ça pour dire qu'il faut absolument que pour la planification de l'immigration, pour l'établissement de seuils de permanents, il faut que ça soit fait d'une manière où on prend en considération cette immigration temporaire-là et que les meilleures décisions possibles soient prises pour le Québec et pour ses immigrants.
Jusqu'à présent, on parlait beaucoup de seuil. Il y a des gens qui demandent qu'on parle plutôt de cible, parce qu'en fait, en vrai, je veux dire, oui, le Québec a le choix de choisir combien d'immigrants il accueille. Là, c'est dans la carte Canada-Québec de 91. Puis d'ailleurs, quand le Canada annonce 500 000 immigrants, en fait, si vous regardez dans les cibles du fédéral, vous allez voir une petite croix au niveau du Québec. C'est le Québec qui choisit combien il en a. Puis c'est son pouvoir. Puis je veux dire, c'est un droit acquis. Puis forcément, on l'a dit, ça s'inscrit dans la défense du français. Ça s'inscrit aussi dans le développement démographique originellement du Québec, sauf que là, les choix qui ont été faits, c'est plutôt de, alors que le Canada a des cibles quand même assez larges, de stabiliser les cibles au niveau de l'immigration permanente, parce qu'en fait, elles restent relativement stables alors que la population, on pourrait l'avoir augmentée, que le rapport, puis juste sur cet enjeu démographique, le poids du Québec dans le Canada, ça a beaucoup d'influence, hein, des influences politiques, financières, fiscales importantes, donc c'est toujours à garder en tête quand même. Et je voudrais juste, dans ces 50 000, ce qu'on oublie, puis on l'a un peu dit, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas que des immigrants économiques. Puis il y a deux autres catégories sur lesquelles il faut quand même se rendre compte qu'ils sont importants. Un, le regroupement familial, on en a parlé, on tombe en amour avec un Québécois ou une Québécoise. Aujourd'hui, au Québec, de ce qui est sorti dans les informations, on attend plus de 2, 3 ans, 4 ans parfois pour avoir son certificat de sélection, accès à ça. Pourquoi ? Parce que la part du regroupement familial diminue, mais parce que les cibles n'augmentent pas non plus, et on diminue ce nombre-là, donc il y a une question de délai qui est beaucoup plus importante au Québec que dans d'autres provinces. Ça pose aussi des questions un peu sur quel système on veut mettre en place ou comment le Québec se positionne. Et dernière catégorie, les réfugiés. Les réfugiés aussi ont droit, je veux dire, il y a des obligations internationales là, qui sont importantes. Quand on a l'asile, quand on est reconnu réfugié, quand on a cette qualité, on a la résidence permanente. Puis là, il y a un goulot d'étranglement aussi important qui se forme évidemment parce qu'on sait, et c'est sûr que ça a posé des enjeux politiques et sociaux, mais que le Québec a été, avec le chemin Roxham, le destinataire de plus de 90% en fait des traversées irrégulières, puis des personnes qui arrivaient pour demander l'asile, mais c'est une obligation internationale du Canada d'examiner l'asile. Mais après, il y a le suivi, c'est-à-dire tous ces demandeurs d'asile qui sont des résidents temporaires. Si ils se font reconnaître la qualité de réfugié, il faudra les passer aussi dans ces chiffres et dans cette portion des 50 000. Et idem, je pensais aussi récemment aux Ukrainiens qui ont aussi un schéma de protection temporaire pour l'instant, mais on voit des programmes qui sont mis en œuvre pour leur permettre de rester avec la guerre qui évidemment continue pour l'instant. Mais tout ça, ça pose des questions. Donc oui, ce 50 000, c'est la guerre des chiffres là, puis c'est souvent la guerre des chiffres entre les partis politiques. Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il en faut moins, 35 000, 50 000? La CAQ s'est fait élire sur la promesse de garder ses cibles, mais derrière, il y a des réalités changeantes importantes. Et puis, comme on l'a dit, entre le temporaire qui explose, mais le permanent qui reste stable, ça pose beaucoup de questions. Puis, je peux comprendre parfois qu'il y ait certaines anxiétés par rapport à l'immigration, surtout quand on parle de chiffres comme ça, mais c'est pour ça que c'est important d'aller voir ce qu'il y a derrière les catégories, le rapport, voir comment est-ce qu'on peut contrôler, comment est-ce qu'on peut gérer ces flux qui existent derrière, mais en même temps, des goulots d'étranglement et des délais de mois et de mois et de mois, c'est positif ni pour les immigrants ni pour le Québec. Ça, c'est vraiment important.
Donc on comprend mieux là, oui, que ce chiffre de 50 000 semble vraiment pas réaliste comparé aux diverses situations que vous venez de décrire tous les deux. Mais donc derrière, j'ai l'impression aussi que souvent, quand on parle d'immigration dans le débat public, il y a des espèces de fantasmes et puis d'incompréhension aussi sur la façon dont le processus se fait, les répartitions entre fédérales et provinciales. Puis justement, vous parliez beaucoup d'immigration temporaire. Donc on a vu là récemment des nouvelles demandes peut-être davantage prises de pouvoir en matière d'immigration temporaire de la part du provincial. On sait que le regroupement familial, c'est une compétence fédérale. Ça semble difficile que le Québec puisse rapatrier, entre guillemets, totalement cette compétence-là. Quelles sont finalement les demandes faites par le gouvernement caquiste récemment, mais même, on pourrait dire aussi, de certains partis d'opposition, à quel point c'est réaliste, ces demandes-là, d'avoir que le Québec puisse avoir davantage encore de pouvoir sur l'immigration temporaire? Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas quelle est votre vision là, sur les récentes prises de position à cet égard
Dans le cadre des accords Canada-Québec en ce moment, souvenons-nous que le Québec a quand même un certain pouvoir pour réguler son immigration temporaire. Comme on le disait, il y a trois types d'immigrants temporaires. Il y a les étudiants, il y a les travailleurs temporaires et puis il y a les demandeurs d'asile. Dans le cas des demandeurs d'asile, c'est le Québec qui est soumis à des obligations humanitaires, à des accords internationaux qui font en sorte que, vous savez, quand vous fuyez la guerre, on ne peut pas empêcher quelqu'un de fuir un pays en guerre, par exemple. Mais si on se concentre spécialement sur les travailleurs temporaires et sur les étudiants étrangers, 100% des étudiants étrangers qui viennent au Québec sont soumis à ce que l'on appelle un certificat d'acceptation du Québec. Donc, le Québec a son mot à dire sur les étudiants étrangers qu'il reçoit sur son territoire, quand on parle de cette immigration temporaire-là. Bon, quand je dis 100%, c'est la très, 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 très grande majorité. Quand on regarde les travailleurs temporaires aussi, certains travailleurs temporaires, ceux du programme des travailleurs étrangers temporaires, sont soumis à l'obtention d'un CAQ. Donc, ils sont aussi, il y a un contrôle que le Québec peut faire à ce niveau-là s'ils considèrent qu'il y a des choses à faire en matière d'immigration temporaire. Et n'oubliez pas qu'une très, très grande majorité des travailleurs aussi sont des gens qui sont sélectionnés par des entreprises québécoises. Donc, les Québécois ont une certaine vision, ont un certain contrôle sur cette immigration-là. En fait, il faut sortir de ces débats-là et déjà, au lieu d'aller chercher plus de pouvoir, est-ce qu'on ne peut pas faire plus avec ce qu'on a actuellement? Donc, c'est sur cette base-là qu'on devrait déjà commencer à réfléchir. Et puis, le Québec a un certain contrôle qu'il peut mettre en place s'il veut aller un peu plus loin dans son contrôle de l'immigration temporaire.
Disons que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de focalisation sur les chiffres de l'immigration permanente pendant longtemps parce que c'est ce qui est planifié, c'est ce qui est mis en avant. Mais ce n'est pas une surprise qu'il y a des migrants temporaires, on l'a dit depuis longtemps. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est important de mettre... Il y a des débats au Québec. Puis comme on l'a dit, le Québec peut faire des choses. Là, il ne faut pas croire. On a souvent tendance à simplifier en disant le fédéral, c'est les temporaires, les permanents, c'est le Québec. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Comme on l'a dit, il y a certains programmes où le Québec pourrait faire des choix et le fait. Mais évidemment, ces débats sont bien plus globaux. Hein. Il se passe aussi au fédéral pour l'instant. Il y a aussi une sorte, tout d'un coup... d'éclatement au niveau fédéral que ah, tiens, il y a tellement de travailleurs temporaires, il y a tellement d'étudiants étrangers, est-ce que des pressions qui existent sur le logement, sur la santé, est-ce que c'est pas d'abord et avant tout ces personnes? Je dirais juste soyons prudents dans les deux sens, parce que les migrants temporaires, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup parce qu'on en a besoin et parce qu'ils sont demandés, c'est-à-dire qu'ils arrivent pas comme ça, on les veut pas, hein. C'est tous des gens qui sont recrutés, qui sont choisis, il y a des études d'impact sur le marché du travail pour les travailleurs étrangers temporaires. Les PMI, c'est des accords qui existent, de l'ALENA, de conjoints, de recrutement, c'est les PVTistes, là, et les étudiants étrangers aussi, là. Je veux dire, le système aujourd'hui au Canada repose énormément sur la contribution financière des étudiants étrangers qui contribuent en fait au PIB, qui contribuent à finalement la vitalité financière, économique et aussi culturelle de nos institutions. Et il y a une sorte de paradoxe, parce qu'aujourd'hui, finalement, on les recrute, on va les chercher, il y a des missions de recrutement, les universités aussi en ont besoin, mais en même temps, quand ils arrivent, ils doivent prouver au niveau de l'Agence des services frontaliers qu'ils veulent retourner dans leur pays, mais en même temps, en fait, ils ont droit à un permis post-diplôme, puis c'est mis en avant dans les missions de recrutement si vous venez au Canada, parce que là, c'est un marché mondial, là. Les étudiants internationaux qu'on attire, ils pourraient aller dans d'autres universités dans le monde, hein. S'ils sont capables de venir au Canada, ils sont capables, ils sont bons, ils peuvent aller ailleurs, mais il y a aussi cette idée que c'est une voie vers l'immigration, puis c'est une réalité, on l'a dit, avec ce système à deux étapes. Donc, on leur dit, oui, vous aurez un permis post-diplôme et en plus, il y a des passerelles qui existent. On a parlé du PEC, mais toutes les provinces canadiennes ont ces types de programmes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles ont des programmes où elles vont aller choisir des étudiants internationaux et leur donner la résidence permanente grâce au programme des candidats des provinces. Donc, c'est un peu paradoxal, tout d'un coup, de se réveiller, de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Oui, il y en a beaucoup, mais parce qu'ils sont choisis, parce qu'on en a besoin. Est-ce que ça met trop de pression ou est-ce qu'il faudrait réguler? Ou est-ce qu'il y a certaines, peut-être, problèmes dans le système? Certainement qu'il faut l'analyser, mais de nouveau, ce serait un peu trop facile de comme, jeter la pierre sur tous les travailleurs temporaires ou jeter la pierre sur les étudiants internationaux. Ce système, il est global, puis il est construit comme ça, mais c'est sûr que ça demande des évaluations importantes, ça demande plus de connaissances sur qui vient, comment ils viennent. Parfois, finalement, c'est ça qui manque, c'est plus d'informations, plus d'évaluations, puis plus peut-être aussi de pédagogie, puis c'est ça qu'on essaye de faire ici, évidemment, mais il faut expliquer les réalités qui sont derrière, puis c'est des réalités évidemment complexes.
Je dirais encore, même plus Catherine, qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'aujourd'hui, le débat, il est beaucoup focalisé sur l'enjeu du logement. Si oui, il y a une pénurie de logement au Québec et au Canada, il faut le dire. Mais est-ce que des immigrants en sont les seuls responsables? L'immigration temporaire en est la seule responsable. C'est aussi une question d'offre et de demande. C'est sûr qu'au niveau de la demande, la présence des immigrants temporaires exacerbe un peu plus cette pénurie du logement. Mais il y a beaucoup d'enjeux d'offre que l'on pourrait aussi régler pour améliorer la situation quand on parle d'offres, c'est de la construction de logements. Il y a parfois aussi des enjeux structurels qui font que les immigrants sont moins présents. Cette force de travail supplémentaire est moins présente dans ces secteurs-là. Est-ce qu'on peut améliorer cette situation-là? Donc, il faut faire extrêmement attention, et même sur le marché du travail, même si en 2023, on constate un ralentissement du marché du travail qui fait en sorte qu'il y a un peu plus d'immigrants qui sont au chômage. Pour l'instant, en tout cas, les prévisions économiques que l'on a nous disent que dans très peu d'années, dans 2-3 ans, le marché du travail risque de se replacer. Donc, les pénuries qu'on connaissait l'année dernière, en 2021, elles ne sont pas là pour disparaître dans la prochaine décennie, d'une certaine manière. Donc, avant de prendre des décisions drastiques, il faut faire attention. Ces immigrants-là, aujourd'hui, occupent des emplois qui sont essentiels pour notre économie. Et notre économie, est-ce qu'elle pourra tourner sans eux dans 2 ans, dans 3 ans? Il faut se poser toutes ces questions avant de prendre des décisions drastiques.
Je vous remercie tous les deux. Plus de démystification et de pédagogie sur les enjeux liés à la planification de l'immigration au Québec. C'était un peu l'objectif de cette émission. Puis j'espère que nos auditrices auront eu peut-être davantage de contexte et de clés pour mieux comprendre là tous ces enjeux. Puis je suis sûr que vous allez continuer évidemment à rester vigilants et vigilants tous les deux sur l'évolution autour de ces enjeux-là. Puis le cas échéant, on pourra vous réinviter pour nous donner votre expertise sur les nouveaux éléments d'actualité autour de ces enjeux-là. Merci encore à tous les deux d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
Merci.
Merci Catherine, merci Loïc, à très bientôt.
C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du CRIDAC. Je tiens à remercier Camille Ranger et Caroline Magnan-Saint-Onge à la co-réalisation de cet épisode. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du CRIDAC.